Docteur Tedril de Brent, Histoire, Littérature et Théologie de l'Ancien Testament, Conférence 10. Symbole Copyright 2020, Docteur Tedril de Brent. Il s'agit du Docteur Tedril de Brent qui enseigne également l'histoire, la littérature et la théologie de l'Ancien Testament, Conférence 10 sur la conclusion des histoires de Jacob. Comme introduction et conclusion du récit de Joseph concluant le livre de la Genèse. A aperçu du quiz et de l'examen entre minuit et 2h58. Classe, revenons à l'ordre. Nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Nous allons terminer Genesis aujourd'hui. Nous avons donc beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Vous travaillez sur les nombres cette semaine dans des articles et dans le livre des nombres. Nous aurons un quiz jeudi. Le jeudi suivant, à une semaine du jeudi, nous avons notre premier grand examen. Les examens portent sur ce que nous avons vu en classe. Il existe d'anciens guides d'études en ligne si cela vous intéresse. Je produirai des jeudi soir/vendredi matin un nouveau guide d'études qui sortira vendredi matin de cette semaine. Mais si vous voulez regarder les anciens, il y en a beaucoup qui sont identiques. Kyle a maintenant une annonce ici concernant les séances de révision pour l'examen. Kyle Lincoln. Commençons par un mot de prière, puis nous aborderons ce dont nous parlons aujourd'hui. Commençons, Père, nous te remercions encore pour cette opportunité de regarder ta parole. Nous te remercions pour les grands patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et pour les nombreuses choses que nous pouvons apprendre de leur vie et aussi que nous pouvons apprendre sur vous en observant la façon dont vous avez interagi avec ces personnes qui avaient toutes des problèmes mais dont vous avez toutes eu affaire et dont vous avez pris soin. Nous te remercions de ne pas nous avoir abandonnés et même lorsque nous avons des problèmes, tu prends soin de nous et tu nous aimes comme le démontre l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, et c'est en son nom que nous prions, Amen. B. Jacob obtient le droit d'aînesse, ragoût rouge entre 2h59 et 4h27. La dernière fois, nous parlions de la tromperie d'Isaac et Jacob et sa mère Rebecca était proche, et Isaac et Ésaü étaient proches. Isaac dit à son fils Ésaü, « Va me chercher un gibier que j'aime. Faites un barbecue comme ils le font au Tennessee. » Puis la mère de Jacob entend cela et elle prend Jacob à part. Elle dit, « Eh, nous allons entrer et le tromper. » Jacob s'habille de ses choses en poils de chèvre et il entre et trompe son père qui est aveugle. Son père l'attrape et ne réalise pas que ce n'est pas le bon fils. Alors il bénit Jacob. Ésaü entre et dit, « Papa, tu n'as qu'une seule bénédiction et mon frère m'a arnaqué. » Isaac semble savoir qu'il a mal agi et il dit que Jacob doit avoir la bénédiction. Isaac dit à Ésaü, « La bénédiction doit rester avec Jacob, je te donnerai une bénédiction mais tu vas servir ton frère. » Vous avez donc cette tromperie d'Isaac et ce favoritisme parental, le père favorisant l'un et la mère l'autre, provoquant cette rivalité fraternelle aboutissant au mensonge de Jacob, sa tromperie. Le nom de Jacob ressemble à « tromperie » ou « guérisseur ». Attrapeur de talons à la sortie de l'utérus, mais l'hébreu sonne aussi comme « trompeur ». Cela ne vient pas de la racine directe, mais cela ressemble à « trompeur ». Ainsi Jacob trompe son père, ce qui est vraiment une mauvaise chose, en recherchant le pouvoir de la parole d'un père. Ces conséquences de la tromperie d'Isaac entre 4h28 et 10h09. Maintenant, ce que je veux suggérer, c'est que pendant que Jacob ment à son père et s'en tire pour ainsi dire, le mensonge de Jacob a-t-il des conséquences? Cela a des conséquences pour Isaac car ce type est un vieil homme aveugle. Maintenant, il réalise que tout le monde doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut pas faire, même à sa propre famille. Peut-il faire confiance à sa femme? Sa femme l'a trahi, son fils l'a trahi, et maintenant il est un vieil homme aveugle réalisant qu'il ne peut faire confiance à aucune des personnes qui lui sont les plus proches. Ainsi Isaac, dit-il, tremblait. C'est un vieil homme aveugle et maintenant il n'a plus personne à qui faire confiance. Que se passe-t-il à cause du mensonge contre Ésaü? Ésaü commence à comploter en disant, « Quand papa mourra, je tuerai Jacob. Il va laisser tomber jusqu'à ce que papa meure, mais une fois que papa mourra, je vais le tuer. » Au fait, Ésaü était-il le genre de personne à faire quelque chose comme ça? Ésaü était un chasseur qui sortait et tuait des animaux, et Ésaü faisait quelque chose comme ça. Alors Ésaü commence à comploter la mort de son frère. Maintenant, Rebecca était également dans le mensonge. Rebecca était la femme d'Isaac et la conséquence pour Rivekan, où Rebecca et son fils préféré va partir pour 20 ans et elle se retrouve avec qui? La belle-fille de sa fille. Ésaü avait épousé deux femmes hittites et Rebecca ne supporte pas ces femmes. Avez-vous déjà vu une belle-mère avec des belles-filles? Est-ce un problème? Il y a toutes sortes de tensions qui peuvent survenir. Vous êtes loyal envers le fils. Le fils est-il fidèle à sa mère ou est-il fidèle à sa femme? Vous obtenez donc ce genre de loyauté conflictuelle chez le fils / mari. À propos, je l'ai souvent dit, lorsque vous recherchez un homme bien, l'une des choses que vous devriez rechercher est la façon dont cet homme traite sa mère. La façon dont un homme traite sa mère, c'est important. Rebecca ne supporte pas les femmes d'Ésaü. Jacob doit partir pendant 20 ans. Il va fuir à Haran, dans le nord de la Mésopotamie. Il ne verra pas sa famille avant 20 ans, même son accès Internet va être coupé. Il n'y aura aucun lien avec la famille pendant 20 ans. Alors, y a-t-il des conséquences à tromper un père? Y a-t-il eu des conséquences pour toutes les personnes impliquées? Oui. C'est donc un gros problème. Maintenant, Jacob va fuir parce que son frère complote pour le tuer. Quand il s'enfuit, où va-t-il? Au fur et à mesure qu'il s'en va, je vais utiliser cette pièce comme métaphore de la terre d'Israël. Vous êtes la mer Méditerranée et vous êtes les montagnes d'Israël. Là où se trouve la mer de Galilée. Dans ce canyon se trouve le Jourdain et je suis la mer morte. La mer morte se trouve à environ 1270 pieds sous le niveau de la mer, ce qui signifie que toute l'eau s'y jette. Comment l'eau s'évacue-t-elle? Il ne s'écoule pas, il faut qu'il s'évapore. Que se passe-t-il lorsque l'eau doit s'évaporer? La mer devient de plus en plus salée. Les Juifs ne l'appellent pas la mer morte, ils l'appellent la mer salée. C'est 33% de sel, est-ce une concentration élevée en sel? Les océans représentent généralement environ 6 ou 7%. C'est 33%. Une fois dedans, vous flottez sans rien faire, vous pouvez donc vous tenir debout. Quand ma mère était là, je me sentais mal de dire ça sur cassette mais elle n'a pas internet, elle ne regardera jamais ça. La graisse ou les muscles flottent-ils mieux? La graisse flotte. Ma mère va dans la mer morte et ses jambes sont sorties de dessous elle et elle n'arrivait pas à baisser ses jambes pour se lever, alors ils ont dû la traîner sur le côté et demander à quelqu'un de la relever parce qu'elle ne pouvait pas la mettre debout. Pieds en bas parce qu'elle flottait à cause du sel. D'ailleurs, pour les femmes, ils vous mettent du sel pour vous aspirer les mauvaises choses. Ils appellent ça les crèmes à Ava de la mer morte et vous prenez ces bains de boue et vous en mettez partout, c'est censé être bon pour vous, je n'en sais pas. C'est la mer salée. De quel pays s'agit-il? C'est de l'autre côté du Jourdain. C'est le pays de la Jordanie. Aujourd'hui, le roi Hussein, sa femme est américaine, c'est un bon roi là-bas. Nous y reviendrons dans une minute. Dès l'échelle de Jacob à Bethel entre 10h10 et 18h36. Où va Jacob? Il vient du sud, alors il se dirige vers le nord, jusqu'à un endroit appelé Bethel. Que signifie, elle? Elle signifie Dieu, elle est une forme courte des Elohim. Beth, signifie, maison de. Bethel signifie donc, maison de Dieu. Vous connaissez, Beth, de, Bethléem, maison du pain. Alors Jacob monte là-haut et pendant qu'il est là, c'est là que se déroule l'échelle de Jacob. Permettez-moi simplement de lire le chapitre 28, verset 12 et suivant. Il y va et puis il s'endort. Il fuit Ésaü parce qu'il a peur que Ésaü ne le tue. Il se couche. Vous souvenez-vous qu'à l'école du dimanche, il est dit qu'il s'allonge sur un rocher comme oreiller, puis il fait le rêve de l'échelle de Jacob. Il fit un rêve dans lequel il voyait un escalier posé sur la terre, dont le sommet atteignait le ciel et les anges de Dieu qui montaient et descendaient dessus. Là où se tenait le Seigneur et il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac. Je te donnerai, à toi et à tes descendants, le pays sur lequel tu reposes. » Dès qu'il dit, « Je vais vous donner le terrain, qu'est-ce que c'est ? C'est le renouvellement de l'alliance. Comme j'étais avec Abraham et j'ai donné à Abraham l'alliance que vous obtiendriez ce pays, que votre semence se multiplierait comme les étoiles des cieux et que vous seriez une bénédiction pour toutes les nations. J'ai donné l'alliance à Abraham, je l'ai réitéré à Isaac et maintenant je te la donne, Jacob. » Et il est dit, « Je te donnerai le pays et ta descendance sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Voilà donc la terre, la semence et la bénédiction réitérées maintenant à Jacob en cette période de transition. Ainsi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, devient désormais le Dieu de Jacob. Dieu le rencontre ici, mais quel est cet escalier vers le ciel? Beaucoup de gens le suggèrent, et je pense qu'ils ont raison, que ce que vous avez ici est une ziggoura. Qu'est-ce qu'une ziggoura? En Mésopotamie, une ziggoura est une pyramide à degrés différente de celle qu'on trouve en Égypte. L'Égypte avait ses pyramides lisses et rectangulaires. À l'avant de la pyramide à degrés, il y avait un escalier qui menait au sommet et au sommet se trouvait la maison du dieu. Certaines personnes pensent donc que ce que Jacob voit ici est une ziggoura mésopotamienne. La ziggoura ressemblait en réalité à une montagne. Les gens ont construit une montagne pour que leur Dieu puisse habiter au sommet. Dieu utilise donc ces images, parce que Jacob les connaît bien. L'échelle de Jacob était peut-être une forme de ziggoura. Encore une fois, nous devinons cela, nous n'en sommes pas sûrs, mais il semble que l'escalier qui monte vers Dieu au sommet serait une configuration en ziggoura. Je veux suggérer que c'est ici que Jacob rencontre Dieu pour lui-même et qu'il y a donc ce renouvellement d'alliance où le Dieu d'Abraham devient maintenant son Dieu. Je veux vous suggérer que Jacob quittait sa famille et rencontrait Dieu pour la première fois, c'est comme les années d'université. Certains d'entre vous ont-ils grandi dans des familles chrétiennes où vous allez à l'église et où vos parents sont religieux, donc vous êtes religieux, mais la question est, êtes-vous vraiment religieux? Ensuite, vous quittez votre famille et vous allez à l'université et à l'université, pouvez-vous devenir qui vous voulez devenir? Maintenant, ce n'est pas ce en quoi croyaient vos parents, c'est ce en quoi vous croyez. Donc à l'université, à bien des égards, il y a cette différenciation où vous devenez votre propre personne. J'ai fréquenté une université laïque où j'essayais de construire ma foi et ils essayaient de la démolir et j'ai dû décider, est-ce que je veux accepter Dieu? Est-ce que je garde les principes avec lesquels j'ai grandi ou est-ce que je deviens une nouvelle personne? J'ai donc dû prendre une décision sur ces choses. Donc, à l'université, il y a cette différenciation en termes de rencontre avec Dieu par soi-même. Ainsi, d'une certaine manière, Jacob allant à Bethel est cette rencontre de Dieu pour lui-même. Dieu est le Dieu d'Abraham et d'Isaac, mais Dieu est-il le Dieu de Jacob? Jacob doit donc répondre à cette question. Il rencontre Dieu à Bethel et c'est ce qui se passe. Maintenant, Jacob, au verset 18, installe cette pierre commémorative et vous allez voir les patriarches et d'autres personnes comme Moïse et Josué installer ces pierres commémoratives pour commémorer les choses. D'ailleurs, nous dressons encore aujourd'hui des monuments commémoratifs. Si vous allez à Washington DC, y a-t-il des monuments commémoratifs? Quelqu'un a-t-il visité le monument de Washington? Très grand. Avez-vous vu qu'il y avait eu un tremblement de terre? Un gars avait une caméra vidéo alors qu'il était au sommet du monument de Washington montrant tout le monument commençant à bouger. Pensez-vous que ce serait amusant? Ils ont filmé cela et apparemment ils s'inquiètent des fissures dans le mémorial. Le mémorial de Washington commémore Washington, je vais au mémorial du Vietnam, y êtes-vous allé? Il rend hommage aux personnes qui y sont mortes. Mon père allait au mémorial de la guerre de Corée qu'il venait de construire. Il y a un nouveau mémorial Martin Luther King Jr. qui vient également d'être construit, je ne l'ai pas encore vu. Cela a l'air assez intéressant, nous voudrons donc aller voir cela la prochaine fois que nous descendrons. Nous commémorons donc les choses dans la pierre. D'ailleurs, il reviendra ici dans 20 ans. Il va partir et revenir à Bethel et ce qui se passera ici à Bethel 20 ans plus tard sera assez intéressant. Maintenant, un peu plus loin au verset 22, Permettez-moi de lire ceci, Jacob a fait un vu, dit-il, si Dieu est avec moi et veille sur moi pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne de la nourriture pour manger et des vêtements pour me vêtir, afin que je retourne en sécurité à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Jacob posait-il cela comme conditionnel. Il dit, Dieu, si tu me ramènes ici et que tu me donnes de la nourriture et des vêtements, alors tu seras mon Dieu. Et cette pierre que j'ai érigée en pilier sera la maison de Dieu. Comprenez-vous le jeu de mots ici? La maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Bethel signifie, la maison de Dieu. Voyez-vous comment il pose la pierre? Il a dit que la pierre serait alors, la maison de Dieu. Il y a ce jeu de mots pour Bethel. Et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai le dixième. D'où vient ce dixième? Moïse donnera la loi plus tard et vous avez lu le livre du Lévitique et d'autres choses et il dira le dixième. Y a-t-il jusqu'à présent dans les Écritures un commandement concernant le dixième dîme? Non. Jacob semble simplement savoir qu'il faut donner à Dieu le dixième ou la dîme. À propos, Abraham a également payé un dixième à Melchisédek après la bataille de Sodome et Gomorre. Il est donc assez intéressant qu'Abraham et Jacob semblent connaître cette dixième paix ou dîme. Il dit que quand tu me ramèneras ici, je te donnerai un dixième de tout ce que je reçois pendant mon absence. Jacob à Haran, Rachel, Léa et Laban 18, 37-20, 11. Eh bien, que se passe-t-il ensuite? Jacob quitte Bethel et il va franchir la porte de là-bas et il va monter à Haran en Mésopotamie. Quand il sera à Haran, qui va le rencontrer? Où rencontre Théon des femmes dans le monde antique? Si vous allez rencontrer des femmes, où traînez-vous? Au puits. Vous rencontrez la femme au puits. Au fait, est-ce que cela arrive avec Isaac et Rebecca? Rebecca est là-bas, près du puits et la servante s'arrête et dit, « Si elle abreuve mes chameaux, c'est elle. » Qu'est-ce que cela signifie? C'est une bonne travailleuse. Alors on rencontre toujours des femmes au puits. Où Moïse a-t-il rencontré Séphora, sa femme? Au puits. Donc Jacob est au puits. Il est dit ici que Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune s'appelait Rachel. Léa avait les yeux faibles. Je ne vais pas développer, mais Rachel était ravissante et belle. Jacob était amoureux de Rachel et dit, « Je travaillerai 7 ans en échange de ta plus jeune fille, Rachel. » Deux ou trois choses, est-ce du troc pour cette fille? En disant, je travaillerai pour toi pendant 7 ans, puis tu me donneras ta fille. Cette fille est-elle du foie haché? Fallait-elle qu'elle l'accepte? Il dispose généralement d'un droit de refus. Elle y consent. Jacob travaille pour elle pendant 7 ans. Jacob et Rachel, nature de l'amour / du désir et du temps 20, 12-22, 48. Une question que je me posais quand j'étais un jeune homme est de savoir ce qui sépare l'amour de la luxure. Quand j'ai grandi dans l'église, on nous a essentiellement appris qu'il fallait avoir l'amour agape, qu'est-ce que c'est? L'amour de Dieu. Vous aviez l'amour héros qui était, l'amour d'attraction sexuelle. C'était donc l'amour agape et cette luxure, ce désir, cet héros ou cet amour érotique. C'était toujours si clair qu'on savait que l'amour agape était ici et l'amour érotique était là-bas. Puis malheureusement, heureusement pour moi, j'ai rencontré ma femme et quand j'ai rencontré ma femme tout d'un coup, c'était comme si ces deux choses étaient devenues comme ça et ma question à moi-même était, et c'était une question sérieuse pour moi, suis-je érotiquement? Je suis amoureux de cette femme parce qu'elle était belle, elle est merveilleuse, elle est talentueuse, elle est tout ce dont je rêvais mais suis-je amoureux d'elle? Je la désire mais est-ce que je l'aime? Voyez-vous la différence? Est-ce que je l'aime ou suis-je simplement attiré par elle? J'ai donc eu du mal à savoir si c'était vraiment de l'amour ou si c'était du désir. J'ai dû régler ce problème et aujourd'hui, plus personne n'a probablement de problème avec ça, c'est du vieux truc. Ce que je dis, c'est que j'ai vraiment eu du mal avec ça parce que je voulais vraiment l'aimer. Maintenant Jacob regarde Rachel, il travaille pour elle pendant 7 ans, à la fin des 7 ans Rachel regarde cet homme. Est-ce qu'il l'aime ou pas? Combien d'entre vous travailleraient 7 ans pour une fille? 7 ans, c'est long. Le temps sépare-t-il l'amour et la luxure? La luxure est-elle maintenant une sorte de chose phtisique? Et laissez-moi être vraiment ringard, l'amour peut-il attendre? L'amour peut-il prendre du temps? Donc je dis qu'après 7 ans, Rachel est-elle presque sûre que ce type l'aime? Ce type travaille pour elle depuis 7 ans. Je dis juste que c'est beau. Le texte ici est beau, c'est un peu ringard mais laissez-moi juste le lire parce qu'il est tellement beau. Mais on ne fait pas souvent de beauté, on fait mieux avec le sarcasme qu'avec la beauté dans notre culture. Jacob était amoureux de Rachel, il a dit, je travaillerai 7 ans en échange de la plus jeune fille. Jacob a donc servi 7 ans pour obtenir Rachel, mais cela ne lui a semblé que quelques jours à cause de son amour pour elle. C'est beau, en d'autres termes, dit-il, les 7 années ont passé vite. F. Jacob et Leben, le trompeur est trompé 22, 49-28, 39. C'est maintenant la fin de l'histoire. Ce n'est que le début de l'histoire, car Leben, le beau-père, a ici une bonne affaire. Alors que se passe-t-il ensuite? Pourquoi est-ce ironique la nuit de noces de Jacob? Alors Jacob est dehors et ils vont à la grande fête de mariage. Tout d'abord, dans cette culture, quelle part de femme voyez-vous? Est-ce que quelqu'un se souvient de ces photos dans le Sinaï lorsque ma femme faisait ce jeu de bal avec cette femme dans le Sinaï? Est-ce que quelqu'un a vu qu'elle portait un voile comme celui-ci? C'était toutes des pièces d'or, nous parlons d'or véritable. Combien vaudrait-il aujourd'hui avec le prix de l'or? Mais de toute façon, elle était recouverte d'or comme ça. C'était en fait incroyable. Dans ces cultures, ce que l'on voit de la femme, ce sont surtout ses yeux. Tout le reste d'elle était couvert. Alors maintenant, ils sont dans cette scène de mariage et vous dites qu'il connaîtrait toujours ses yeux et c'est différent parce qu'il est dit que l'I avait les yeux faibles. Est-il possible que les femmes aient été échangées dans la situation de l'attente? Maintenant, quel est le problème? Vous êtes au Gordon College, cet endroit est éclairé 24/24. Mais lorsque vous arrivez dans un endroit où vous n'actionnez pas l'interrupteur pour allumer les lumières, est-ce qu'il fait vraiment très sombre la nuit? Et quand vous êtes dans une tente bédouine faite de poils de chèvre noir, quand vous êtes à l'intérieur, il fait si sombre. Avez-vous déjà été dans un contexte où vous pouvez lever la main devant votre visage et ne pas la voir? Il fait complètement noir à ces endroits. Alors que se passe-t-il? Il y a un grand changement et que va-t-il se passer là-bas? Alors laissez-moi simplement lire le texte. Leben a donné à sa servante une fille et quand le matin est venu et que Jacob sort de la tente, le matin venu, il se retourne et voilà Léa. Qui attendait-il? Rachel. Avait-il été trompé? Maintenant, est-il facile de se laisser tromper par la culture lorsque les femmes se couvrent? Peut-être que je ferais mieux de venir ici, Kyle, parce que je ne veux pas être frappé. Peut-être, en d'autres termes, il y avait une grande fête, et il y aurait eu des discussions pendant la fête, mais quand ils sont entrés dans la tente, il y avait probablement un silence dans la tente pendant la nuit, d'autres choses se passaient. Je vais probablement m'en sortir. Pendant que je suis ici, laissez-moi vous dire que mon fils était en Afghanistan, je vous l'ai déjà dit, et qu'il se battait contre des talibans. C'était vraiment intéressant qu'il s'en prenne à 3 talibans et tout d'un coup, les talibans ont disparu. Il a dit qu'il était comme des fantômes, ils ont juste disparu, et puis tout d'un coup, il regarde vers le bas de la route et il y a 3 femmes qui marchent dans la rue. En Afghanistan, les femmes se couvrent elles totalement jusqu'au visage et ne marchent elles jamais sans être accompagnées par un homme. Ils ont ces petites choses qui ressemblent à des grilles à partir desquelles ils regardent, de sorte qu'on ne peut même pas voir leurs yeux. Alors un individu, qui était un marine, commence à voir ces 3 femmes marcher sur la route et il dit à son commandant, « Tirons-leur dessus, ce sont ces gars-là. » Et le commandant dit, « Oh, oui, c'est vrai, nous allons tirer sur les femmes. » Les marines ne font pas ce genre de choses. Et mon fils a dit, « Non, ce sont les gars. » Maintenant question, pourrait-il monter et aborder ces femmes? Vous êtes en Afghanistan, les soldats des marines peuvent-ils monter et aborder une femme? Non, cela viole la culture et le marine que je connais jure jusqu'à ce jour que c'est ainsi que ces 3 talibans se sont enfuis. Ils se sont déguisés en femmes et se sont enfuis. Ils pouvaient aussi le dire à la façon dont ils marchaient et c'est essentiellement comme ça qu'ils se sont enfuis. Ils n'ont pas pu les aborder parce qu'ils ont dû avoir une interprète féminine pour les aborder. Ils ne pouvaient pas faire ça, alors ces gars se sont enfuis. Était-ce une décision plutôt astucieuse de s'habiller comme une femme et de s'évader? Quoi qu'il en soit, c'est réellement arrivé. Maintenant, tout ce que je dis, c'est qu'il se réveille, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé à ce que tu ressentirais, tu te maries et ta nuit de noces est comme la meilleure nuit de ta vie. Tu te lèves et tu te retournes et tu vois Léa. Comment te sentirais-tu en tant qu'homme? Il y a quelques années, j'ai changé de perspective. Que ressentirais-tu si tu étais Léa? Vous venez de passer la nuit avec lui et il se retourne et il vous regarde et vous voyez son visage, est-ce terrible? Vous savez ce que je dis, savez-vous ce que ça ferait d'être rejeté comme ça? Au fait, Léa est la surénée. Y a-t-il quelque chose entre les surénées et cadettes? Non, je suis sérieux, j'ai dû faire face au fait que dans ma propre famille, ma plus jeune fille s'est mariée en premier. C'est inexprimé. Je veux dire, je ne pense pas que nous en ayons jamais parlé dans ces termes. Est-ce qu'il se passe des choses lorsque la surcadette se marie pour la première fois? Que fait Leben? Il y a donc un changement en cours là-bas. Pourquoi est-ce ironique? Le trompeur est-il trompé? Et ainsi, toutes les ruses de Jacob, ses mensonges et ses tromperies, tout d'un coup, lors de sa nuit de noces, le trompeur est trompé. Cela lui va plutôt bien. Vous savez ce que je dis, il comprend enfin ce qui lui arrive. Je ne veux faire aucune démarche éthique lex talioni évaluation mais c'est un peu ironique. J'ai Jacob et la polygamie, récit historique, normatif ou non normatif. 28H4035H15. Maintenant Jacob est polygame. Ce que cela met en place maintenant, c'est que Leben dit, d'accord, dans notre culture, vous devez d'abord épouser la fille aînée avant d'avoir la fille cadette. Alors Leben dit, et, Jacob, ça te coûte encore 7 ans. Cela ne vous semblera que quelques minutes parce que vous l'aimez tellement, n'est-ce pas? Alors donnez-moi encore 7 ans. Est-ce que Jacob va travailler 14 ans pour ses deux filles? Il a probablement eu Rachel après la fin de sa semaine avec Lee. Il a probablement donné Rachel juste après, mais il a quand même dû travailler pendant 7 ans. C'est probablement comme ça que ça s'est passé. Il travaille encore 7 ans pour le plus jeune. Maintenant, Jacob est polygame. La polygamie est-elle cool dans la culture américaine? Quelqu'un a-t-il suivi Warren Jeffers? Le type qui avait toutes ses femmes au Texas et ce type a été mis en prison. Je pense que certaines des filles qu'il épousait avaient 13 ou 14 ans. C'est vraiment mauvais, ce type est mauvais. Cela fait partie de la tradition mormone de Joseph Smith, qui avait lui-même plusieurs épouses. Les mormons au tournant du siècle ont éliminé la polygamie, mais certains de ceux qui remontent au mormonisme originel ont encore de nombreuses épouses. Ils insistent sur ce point et beaucoup d'entre eux restent silencieux lorsqu'il s'agit de condamner cela. Il faut donc être prudent avec ça. Jacob était polygame. Pouvez-vous utiliser cela pour dire, Jacob était polygame, donc nous devrions être polygames. Ce que je veux vous suggérer, c'est que lorsque vous traitez des récits historiques, vous devez faire la distinction entre ce qui est normatif et ce qui ne l'est pas. En d'autres termes, la Bible se contente-t-elle parfois de décrire ce qui s'est passé sans l'approuver ou la désapprouver. C'est juste une description de ce qui s'est passé. Ce n'est pas censé être universalisé. Jacob ment à son père. Sommes-nous censés mentir à nos parents? Non. Jacob a-t-il fait des choses qui n'étaient pas bonnes? Jacob a fait des choses qui n'étaient pas bonnes et par conséquent, vous ne pouvez pas retirer les choses directement de l'histoire parce que la Bible ne fait souvent que consigner l'histoire. C'est ce qui s'est passé bien ou mal, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime la Bible. Vous dites, parce que Jacob est polygame, vous aimez la Bible. Non, laissez-moi vous expliquer. Dans beaucoup d'autres cultures, lorsque vous allez à Marie et que vous parlez à Zimrilin et qu'il est le grand roi de Marie lorsqu'il rassemble les annales des rois, est-ce que cela tente de faire passer Zimrilin pour le grand patron? Zimrilin fait toutes ces grandes choses, grâce à Zimrilin vous avez une belle vie, grâce à Zimrilin vous avez de l'eau dans les canaux, etc. Dans les autres cultures, les rois sont-ils des pimps comme ces gens qui font toutes ces choses merveilleuses? Quel est le problème avec la Bible? Parlez-moi des grands rois d'Israël. Vous dites, eh bien, Israël avait aussi ses grands rois. David était un homme selon le cœur de Dieu, et puis vous commencez à réfléchir. Oui, David, quel était son nom? Bethsabée. Oui, donc tu dois reculer avec David, mais David est vraiment l'homme. Alors vous dites Salomon, eh bien Salomon était l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Salomon était un grand roi d'Israël. Salomon oui, qu'est-ce que c'était? 700 femmes, 300 concubines, et puis il sert d'autres dieux. D'accord, alors tu dis Roboam. Eh bien, c'était un désastre et vous commencez à descendre sur la liste des rois. Ainsi, dans la Bible, tous les rois, les grands hommes d'Israël, Saül le premier roi d'Israël, ont-ils tous des verrues? Est-ce qu'ils ont tous des problèmes? La Bible couvre-t-elle leurs verrues? La Bible couvre-t-elle leurs péchés? Ou la Bible raconte-t-elle comment c'était? Ce que je dis, c'est que les autres cultures ont fait ressembler leurs grands hommes à ces grands héros. Dans la Bible, tous les héros ont des problèmes, chacun d'entre eux. C'est pourquoi j'aime les Écritures parce que, est-ce que j'ai aussi des problèmes? Ces gars-là avaient tous des problèmes. Dieu s'est-il occupé d'eux, les a-t-il aimés et a-t-il pris soin d'eux? Oui, j'ai des problèmes aussi, cela veut-il dire que Dieu va me jeter? Non, cela veut dire que Dieu nous aime au-delà de nos défauts. La Bible dit donc les choses telles qu'elles sont et c'est un livre rare dans le monde antique. C'est vraiment rare. Jacob a des problèmes. Le fait que Jacob ait deux femmes maintenant, est-ce que ça va être un problème? La polygamie, ça marche. La Bible vous dit les résultats. Est-ce que ça a marché d'avoir deux femmes? Ensuite, il lance un concours pour savoir qui aura le plus d'enfants. C'est très intéressant ici quand on regarde cela, mais permettez-moi d'y revenir. Ce que je suggère, c'est que lorsque vous lisez l'histoire, vous devez faire attention à séparer ce qui est normatif, ce qui est éternel et ce qui n'est pas normatif. En d'autres termes, Jacob a fait ça et ce n'était pas vraiment bien, mais il l'a quand même fait. Donc c'est uniquement destiné à cette époque et à cet endroit, c'est quelque chose qu'il a fait. Il a menti à son père, ce qui n'est pas censé durer éternellement. Nous ne devons pas mentir à nos pères. Il faut donc faire la distinction, lorsqu'on parle d'histoire, entre le normatif et le non-normatif, entre la description et la prescription, c'est vraiment important. Maintenant, Dieu arrive et j'aime ça, descendez au chapitre 29, Jacob a deux femmes, Rachel et Lia, laquelle aime-t-il? Rachel. À qui Dieu ouvre-t-il le sein? Celle de Léa. Dieu se range du côté des opprimés. Vous voyez cela encore et encore dans les Écritures. Dieu se range du côté de la femme mal aimée et Dieu ouvre son ventre. Rachel peut-elle avoir des enfants? Non, Rachel ne peut pas avoir d'enfants. Ainsi le ventre de Rachel est fermé et le ventre de Léa est ouvert. Au fait, Jacob est ce trompeur infidèle, mais Jacob, Rachel et Léa construisent-ils les 12 tribus d'Israël? Est-ce que tu comprends? C'est de là que sont originaires les 12 tribus. Jacob, Rachel, Léa et leur sœur Vanthèse produisent les 12 tribus d'Israël. Vous dites que si je devais faire les 12 tribus d'Israël, vous essayeriez de rendre leur mère un peu plus respectable, de créer une meilleure histoire, mais c'est vraiment cette relation polygame. Dieu ouvre le ventre de Léa. Léa eut alors Ruben, qui est le premier-né, et bien d'autres enfants par la suite. H. Les plantes de mandragore et la fertilité 35, 16-38, 18. Nous verrons ce qui se passera avec Rachel. Rachel dit, et, j'ai aussi besoin d'avoir des enfants. Alors, que se passe-t-il au chapitre 30, verset 14, il est dit, pendant la moisson du blé, qui a lieu à la fin du printemps, Ruben sortit dans les champs et trouva des mandragores. C'est quoi ces mandragores? Les plantes de mandragore, nous dit-on, sont ce que Ruben, l'aîné, a apporté à sa mère Lia. Rachel dit à Léa, s'il te plaît, donne-moi quelques mandragores de ton fils. Mais Léa lui dit, ne suffisait-il pas que tu aies enlevé mon mari, tu prendras aussi les mandragores de mon fils. Léa est un peu vexée ici. Léa dit, eh, tu as volé mon mari et maintenant tu prends les mandragores de mon fils. Quel est le problème avec cette affaire de plantes de mandragores? Très bien, dit Rachel, il peut coucher avec toi ce soir. Jacob est donc vendu pour quelques plantes de mandragores. Ces femmes négocient pour savoir qui couchera avec leur mari et le vendent contre quelques plantes de mandragores. Il peut dormir avec toi ce soir, donne-moi juste quelques mandragores. Ce type vaut quelques plantes, pas très bonnes. Vous demandez ce qui se passe avec ces plantes de mandragore. On croyait dans le monde antique que ces plantes de mandragore étaient en grande partie destinées à la fertilité. Si vous avez ces plantes de mandragore, il n'y a probablement pas grand-chose à faire, mais ces plantes de mandragore étaient considérées par leur culture comme des plantes de fertilité. On dirait peut-être un aphrodisiaque. Vous prenez ceci et cela vous rend sexuellement puissant. C'est peut-être ce qu'il appelle l'ancien Viagra. Je n'ai jamais eu cette pensée auparavant, mais c'est la forme ancienne. Nous ferions mieux de nous en sortir, mais c'est ainsi que cela aurait été pensé dans le monde antique. Maintenant, quel est le problème ici? Le problème est le suivant. Qui va donner son enfant à Rachel? Est-ce que ce sera parce qu'elle a eu les mandragores? Le texte le dit très clairement, elle reçoit les mandragores, mais le texte le dit aussi très clairement, Dieu écoute Rachel, et elle tombe enceinte et a eu un fils. Mais si vous regardez le verset 22, il est dit, Dieu se souvint de Rachel et il l'écouta et il ouvrit son ventre et elle devint enceinte et donna naissance à son fils. Et elle dit, Dieu a ôté ma honte, et elle l'a nommé son premier fils, et c'est important, qui était le premier fils de Rachel? Joseph. Dieu m'a ajouté, Jéhovah m'a ajouté, que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Donc Rachel a un fils. Qui donne son fils à Rachel? Est-ce le résultat des mandragores? Non. Dieu a ouvert son ventre et elle a Joseph. Et Joseph est le premier-né de Rachel 38, 19-40, 03. Joseph va-t-il être un joyau? Joseph est l'un des rares joyaux de la Bible, Daniel est l'autre de l'Ancien Testament. Ces deux gars sont irréprochables mais tous les autres ont des problèmes mais Joseph va être un très bon gars. Donc son premier fils Joseph n'était pas le résultat des mandragores, c'est Dieu qui le fait. Au fait, Joseph était le premier fils de Rachel, qui était le dernier fils de Rachel. Benjamin. Ben Yaminut, c'est très important. Ben signifie, fils de, Yamin signifie, main droite. Dans ces cultures, votre main droite était la main d'honneur. Laissez-moi juste dire ceci, si vous êtes dans une culture arabe et que le mec arabe s'approche et serre la main gauche, comprenez-vous que c'est une insulte majeure. La main droite est la main de l'honneur et de la bénédiction. S'il tremble avec sa main gauche, qu'est-ce que cela signifie? Ils font certaines choses avec leur main gauche et seulement leur main gauche dans certaines pièces de la maison avant de tirer la chasse d'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Cela se fait toujours avec la main gauche, avec ou sans papier toilette. D'accord, comprenez maintenant que vous êtes américain, mais là-bas, ils n'ont parfois pas de luxe et je parle de papier toilette. Donc, si une personne vous serre la main avec sa main gauche, tout ce que je vous dis, c'est que c'est une insulte majeure. D'ailleurs, cela m'est arrivé avant même de m'en rendre compte. J'ai pensé, c'est vraiment bizarre, et je suis retourné parler à quelqu'un qui m'a dit ce que cela signifiait. Donc vous ne voulez pas faire ça. On serre avec la main droite, la main d'honneur, pas la main gauche, c'est une grosse affaire. Fils de ma main droite, Benjamin est un beau prénom. Mon petit-fils s'appelle Benjamin, fils de ma droite, fils de la bénédiction, de la puissance et des choses comme ça. Benjamin et Joseph vont donc être les deux fils de Rachel. Mort de J. Rachel à Bethléem et écho biblique 40, 04-43, 39. Où Rachel meurt elle? Elle meurt en ayant Benjamin à la naissance. Maintenant, les femmes meurent elles dans notre culture en ayant des enfants. Ce n'est généralement pas le cas dans la culture américaine, mais dans d'autres endroits du monde, les femmes meurent en ayant des enfants. Cela arrive partout. Rachel va mourir en ayant Benjamin à la naissance. Maintenant, que se passe-t-il? Où meurt-elle? Cela devient significatif. Rachel meurt, mais où meurt-elle? Elle meurt juste à l'extérieur d'une ville appelée Bethléem. Maintenant, pourquoi est-ce important? À cause de sa mort, ils lui ont érigé un mémorial. Ils ont érigé un mémorial sur la principale route de la Ridge Route qui traverse l'épine dorsale d'Israël. Ils ont érigé un mémorial à Rachel à l'extérieur de Bethléem et elle est considérée comme la matriarchée de Bethléem. Maintenant, au temps de Jésus, est-ce que quelqu'un se souvient que Rachel est mentionnée au temps de Jésus dans Matthieu chapitre 2, verset 18? Et que se passe-t-il dans Matthieu chapitre 2? Qui découvre que Jésus est né à Bethléem? Les mages viennent trouver Hérode et Hérode leur dit, « Descendez à Bethléem, trouvez le jeune enfant et quand vous l'aurez trouvé, rapportez-moi un message. » Les mages sont-ils jamais revenus vers Hérode? Non, ils s'enfuient de là. Quand Hérode se rend compte qu'il a été trompé par les mages, que fait Hérode? Il se rend à Bethléem et tue tous les enfants de 2 ans et moins. Vous souvenez-vous de ce que disent les textes bibliques? Matthieu 2, 18, juste après le massacre des enfants de Bethléem, il est dit, « Et une voix se fit entendre à Rama, au nord, à une certaine distance au nord, pleurant et grand matin, Rachel pleurant ses enfants refusant de soyez consolés car ils ne sont plus. » Donc ce que vous obtenez, c'est ce genre d'écho. Rachel meurt à l'extérieur de Bethléem et 2000 ans plus tard, vous obtenez cet écho avec Jésus. Rachel pleure ses enfants, les enfants de Bethléem parce qu'elle est la matriarchée de Bethléem. Donc, fondamentalement, vous obtenez cet écho et c'est au temps de Jésus. Mais vous dites, Hildebrandt, tu as oublié quelque chose parce que Matthieu cite Jérémie. Jérémie dit, Rachel pleurant ses enfants se fait entendre jusqu'à Rame. Pourquoi Jérémie cite-t-il cela puisque Jérémie est au milieu entre Jacob et Jésus? Pourquoi Jérémie aurait-il dit cela? Parce que c'est à ce moment-là que le peuple fut emmené captif à Babylone. C'est l'exil babylonien auquel Jérémie fait référence, lorsque Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et ces gars-là sont tous emmenés à Babylone. Jérémie fait référence à la destruction de Jérusalem en disant que Jérusalem est détruite et que Rachel pleure ses enfants alors qu'ils sont emmenés à Babylone. Ainsi, vous obtenez cet écho de la mort de Rachel à l'extérieur de Bethléem, puis vous obtenez cet écho de l'endroit où les enfants sont exilés à Babylone, puis de Jésus-Christ qui est né et ses enfants sont tués. Vous obtenez donc ce genre d'écho de triade à travers les Écritures et c'est vraiment intéressant avec Rachel mourant en dehors de Bethléem. Vous pouvez y aller jusqu'à ce jour et voir le mémorial dédié à Rachel à l'extérieur de Bethléem jusqu'à ce jour. Car Rachel est les dieux de la famille 43, 40-46, 11. Donc Rachel meurt maintenant, que va-t-il se passer? Reculons un peu, Jacob va quitter la Mésopotamie, donc lui, de l'extérieur de la porte, il va quitter Laban. Laban l'a arnaqué et il a arnaqué Laban. Ils font des allers-retours et sa famille commence à partir mais alors qu'il commence à partir, et c'est au chapitre 31, Rachel vole l'un des dieux de la famille. Laban court après Jacob, rattrape Jacob et dit, « Jacob, que fais-tu? Tu me fuis. Vous avez volé tous mes biens, vous avez volé mes filles, vous avez volé mes petits-enfants, je ne les reverrai plus jamais. Que fais-tu Jacob? De plus, Jacob, tu as aussi volé mes dieux. Jacob objecte, je n'ai pas volé vos dieux. Quiconque vous trouvez avec vos dieux, vous pouvez le tuer. Je n'ai pas pris tes dieux. De toute façon, je ne veux pas de tes stupides dieux. Eh bien, il n'a pas dit cela parce que nous découvrirons plus tard que Jacob se moque probablement aussi de dieux étrangers. Ce qui se produit. Laban entré le père s'approche de sa fille Rachel. Vous savez comment un père s'approche de sa fille et que celle-ci le regarde? Or Laban était parti paître ses brebis et Rachel a volé les dieux de la famille. Laban le poursuit puis Rachel dit à son père, « Ne te fâche pas mon seigneur, je ne peux pas me lever maintenant, laisse-moi utiliser la version King James maintenant parce que je l'aime mieux, père, je ne peux pas me lever maintenant pour la manière des femmes est sur moi. » Elle est donc assise sur les dieux de la famille. Elle dit, « Je ne peux pas me lever papa, parce que tu sais que c'est cette période du mois. Donc je ne peux pas me lever. » Est-ce plutôt astucieux? Rachel ment à son père. Au fait, vous vous demandez peut-être quelle est la taille de ce dieu sur lequel elle est assise. Je pense que vous devez vous rappeler que vous avez des dieux tribaux, de grands dieux, mais quand vous parlez de dieux familiaux, vous parlez de dieux de 6 pouces. Pourquoi voulait-elle les dieux de la famille? Certaines personnes suggèrent que celui qui possédait les dieux de la famille avait l'héritage et qu'il pouvait donc se présenter 20 ans plus tard et dire, « Papa, tu vois, je fais partie de cette famille. C'est pourquoi je reçois une partie de l'héritage. » Il y avait donc des droits de succession possibles. Quelqu'un a suggéré lors du dernier cours, c'était une suggestion très intéressante, que peut-être les dieux avaient à voir avec la fertilité et Rachel essayait de dire qu'elle allait servir les dieux de la famille pour qu'elle puisse être plus fertile. Les dieux lui ont-ils vraiment donné des enfants? Non, Jéhovah lui a donné des enfants, mais elle jouait peut-être avec d'autres dieux. Eh bien, elle jouait avec d'autres dieux mais la plupart des gens pensent que c'est un héritage, mais c'était une suggestion intéressante en classe sur l'option de fertilité car il y avait des dieux de la fertilité. El Jacob à Peniel, rencontre d'Ésaü 46, 12-57, 40. Passons maintenant au match de lutte du chapitre 32. C'est un chapitre important. Alors que Jacob descend de Mésopotamie depuis Haran, il passe par Dama. Il est sur ce qu'il appelle la Kines Highway. Il descend juste là où se trouve cet homme à la chemise noire. Il y a un oued, une vallée qui descend là-bas, appelée Wadi Jabbok. Il l'appelle la rivière Jabbok, je n'oublierai jamais d'y aller. J'y vais, je cherche cette rivière Jabbok, n'est-ce pas? Il faisait quelques pieds de large, je parle de quelques centimètres de profondeur. Oui, je l'ai regardé et j'ai dit que d'où je viens, c'est un peu trop grand pour un fossé mais j'ai vu des fossés plus grands que ça et j'ai été vraiment déçu parce que je m'attendais à la rivière Jabbok. J'y arrivais sérieusement, vous auriez pu sauter par-dessus et ce n'était qu'à quelques centimètres de profondeur. Alors, tu comprends, ils ont beaucoup moins d'eau. J'ai grandi sur la rivière Niagara, c'est une vraie rivière. Ces choses-là, quand ils parlaient, quand j'étais plus jeune, ils disaient, j'ai vu le puissant Jourdain rouler. Avez-vous déjà vu que le puissant fleuve Jourdain est à peu près aussi large que cette pièce, avec une profondeur moyenne de 3 pieds? Maintenant, d'où je viens, est-ce qu'on appelle ces rivières? Le Niagara était une rivière, là où j'ai grandi, on appelle cela des ruisseaux. Donc tout ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup moins d'eau là-bas. En Amérique, nous sommes habitués au lac Erie et au lac Supérieur. Êtes-vous déjà allé sur le lac Supérieur? Oh, vous faites l'océan ici. Donc ce que je dis, c'est que nous avons beaucoup plus d'eau, là-bas, il y en a beaucoup moins. Alors que se passe-t-il? Jacob descend et où est Ésaü? C'est la mer morte, Ésaü vient d'ici, au pays d'Édom. Et Ésaü et 400 de ses hommes se dirigent vers le nord. Maintenant, est-ce que ça va être un problème? D'accord, Jacob va rencontrer Ésaü avec 400 de ses hommes. Jacob est-il mort de peur? Est-ce que quelqu'un se souvient de Karate Kid 2? Où Sato, après toutes ces années, allait retrouver Monsieur Miyagi parce qu'il était toujours en colère contre lui pour avoir volé sa femme et il allait tuer Miyagi après toutes ces années. Les gens nourrissent-ils de la colère pendant des décennies? Au sein d'une famille, je parle de vos propres familles, les frères et sœurs, les pères et les membres de la famille nourrissent-ils parfois de la colère envers quelqu'un pendant des générations, souvent pendant 10, 20 ans? Je connaissais un gars nommé H.E.R.B. King, je travaillais dans une prison à sécurité maximale et H.E.R.B. a passé 35 ans en prison pour meurtre. Il est finalement sorti, comme un vieil homme lorsqu'il est sorti, vers la fin de la cinquantaine. Ils lui ont donné ses $75 et il a pris un bus depuis la prison d'État de l'Indiana jusqu'en Géorgie, d'où il était originaire. Après 35 ans, il a franchi la porte de sa maison, et c'est la vérité honnête, et en passant, j'utilise son vrai nom maintenant parce que cela n'a plus d'importance. Il est arrivé après 35 ans passés dans un pénitencier. Il est enfin libre et il entre chez lui et il y avait un gars avec un calibre 12 là-dedans le jour où il est entré chez lui, il a été époustouflé. Le type l'a tué après 35 ans et l'a abattu. Il a franchi la porte d'entrée, une balle dans la poitrine. Il est mort. Question, ce type nourrissait-il de la colère envers HERB depuis 35 ans alors qu'il était en prison? HERB est au cimetière après 35 ans. Les gens nourrissent-ils ce genre de ressentiment? Jacob est-il effrayé lorsqu'il apprend que Ésaü va proposer 400 gars? La dernière fois qu'il a vu Ésaü, Ésaü a juré qu'il allait le tuer, et il est accompagné de 400 hommes. Jacob a quoi? Un groupe de femmes et d'enfants. Jacob peut-il se défendre? Il ne peut pas. Au fait, Jacob est-il un homme? J'ai un problème avec Jacob, il y a des trucs ici qui me dérangent vraiment chez lui. Quand Ésaü vient vers lui, il lui envoie tout d'abord des cadeaux. Est-ce vraiment une chose intelligente? Quelqu'un est vraiment en colère contre toi. Offrez-vous des cadeaux. J'essaie les fleurs. Les cadeaux fonctionnent parfois, pas tout le temps, mais parfois. Ça vaut la peine d'essayer. Les fleurs, c'est bien, d'accord. Vous obtenez environ 50 centimes. Le chocolat fonctionne aussi, et il faut y parvenir. Alors il envoie des cadeaux à Ésaü. Les cadeaux apaisent-ils la colère? Parfois, ils le font. Il a peur. Donc, que fait-il? Il divise sa famille et qui met-il en premier? C'est un homme et donc il dit, eh, c'est mon frère. Il vient pour me tuer, je devrais être le premier à sortir, alors vous vous cachez à l'arrière, s'il me tue ou me poursuit, vous courez pour sauver votre vie. Est-ce Jacob? Non, que fait ce type? Il met Lia et les enfants devant et Rachel derrière et où est-il? Il est au fond. Est-ce l'homme d'un homme? Je suis désolé, le mot qui me vient à l'esprit est « lâche ». Est-ce ce qu'un père devrait faire? Un père doit-il protéger sa famille ou doit-il se cacher derrière sa famille? D'accord, je suis désolé que cela me dérange vraiment à propos de lui, c'est à peu près le niveau le plus bas que l'on puisse trouver dans mon livre. Alors que se passe-t-il? Cette nuit-là, il est au Jabbok Wadi. Il est là-bas tout seul, et tout d'un coup, il a ce match de lutte. Laissez-moi voir le verset 24 ici, et vérifier ceci. Il est dit, cette nuit-là, Jacob se leva et prit ses deux femmes, ses servantes et Jacob resta seul et un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Et quand l'homme a vu qu'il ne pouvait pas le maîtriser, il a touché, l'homme a vu qu'il ne pouvait pas le maîtriser, est très intéressant. Jacob est-il capable d'affronter cet homme? Ainsi, l'homme n'a pas pu le maîtriser, mais finalement, l'homme a touché l'orbite de sa hanche et a sorti sa hanche. Sa hanche s'est donc arrachée alors qu'il luttait avec l'homme. Puis l'homme a dit, « Laissez-moi partir car c'est le jour. » Et Jacob dit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Jacob est-il vraiment intéressé par cette histoire de bénédiction? « Je ne vous laisserai pas partir à moins que vous ne me bénissiez. » L'homme lui a demandé, « Comment t'appelles-tu ? » Jacob répondit il et l'homme dit, « Ton nom n'est plus Jacob mais Israël. » Tout d'abord, lorsque vous êtes en difficulté, priez-vous. Jacob a des ennuis, il doit affronter Ésaü. Priez-vous lorsque vous êtes en difficulté. Oui. Jacob fait la prière. Parlons d'abord du nom de Jacob. Le nom de Jacob signifie quoi? Cela ressemble un peu à « trompeur » et maintenant il va recevoir le nouveau nom, Israël. Que veut dire Israël? Israël, elle, signifie « Dieu », Israël, signifie « celui qui lutte avec Dieu ». À propos, le nom, Israël, décrit-il les Juifs de tous les temps? Les Juifs ont-ils lutté avec Dieu tout au long de leur génération, millénaire après millénaire? Les Juifs ont lutté avec Dieu et c'est pourquoi ils sont appelés Israël, celui qui lutte avec Dieu. Cela devient le début du nom national, Israël, qui est donné aux 12 tribus issues de Jacob. Jacob reçoit un nouveau nom et c'est vraiment une bonne chose, il passe de « trompeur » à « celui qui lutte » ou « lutte avec Dieu ». Maintenant, Jacob nomme le lieu Peniel. Quand vous regardez ce terme Peniel, Pei signifie « visage », elle signifie « Dieu ». Le nom du lieu signifie « visage de Dieu ». Pourquoi Jacob l'appelle-t-il Peniel? Le texte nous le dit explicitement. Il dit « Je vais l'appeler Peniel ou « visage de Dieu » parce que j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été épargnée. Jacob pensait qu'il luttait avec qui? Un homme? Non, il dit que ce n'était pas seulement un homme. Oui, on l'appelait un homme mais, j'ai vu Dieu face à face. Il nomme donc l'endroit Peniel. Ce que les gens ont suggéré, et je suis d'accord avec cela, c'est qu'il existe ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament une théophanie, ou une christophanie. Une théophanie signifie que quelqu'un a vu Dieu. Vous souvenez-vous que sur le mont Sinaï, Dieu était au sommet de la montagne. La montagne tremble. Moïse est là-haut et son visage brille et il descend. C'est une théophanie où Dieu apparaît. Cela épate les gens et la gloire les submerge. C'est une théophanie, une apparition de Dieu. Une christophanie est une apparition du Christ avant que Christ ne naisse réellement. Ce que je suggère, c'est que Jacob a lutté avec un homme et que l'homme n'a pas pu le vaincre. Il ne pouvait pas s'échapper jusqu'à ce qu'il touche la hanche de Jacob et l'éteigne. Ce que je suggère, c'est qu'il est très probable que l'homme était Jésus-Christ, auparavant dans la chair. Jésus-Christ, avec sa force normale, a lutté avec Jacob jusqu'au matin, puis il a sorti sa hanche. Je suggère donc qu'il s'agissait d'une christophanie. Jacob conclut que ce n'était pas un homme normal, j'ai vu Dieu face à face, et si, l'homme, était Jésus, alors il est Dieu. Alors est-ce que ça a du sens? C'est un peu comme ça que je vois les choses et beaucoup d'autres personnes voient les choses de la même manière. Pourquoi l'ange a-t-il changé de nom? Trompier, pour, celui qui lutte avec Dieu. Maintenant, il a vu Dieu face à face et lutte avec lui et nous suggérons que c'est Jésus. Certaines personnes regardent le chapitre 32, verset 32 et laissez-moi d'abord vous lire ceci, le soleil se levait au-dessus de lui alors qu'il dépassait Peniel et il boitait à cause de sa hanche. Il doit rencontrer Ésaü demain matin. Combien d'entre vous ont déjà eu des rêves et un grand type ou quelque chose du genre les poursuit et vous pouvez toujours faire quoi? Vous pouvez toujours vous enfuir. Vous courez toujours et vous enfuyez. Maintenant, que fait Dieu de Jacob? La hanche de Jacob a disparu. Jacob peut-il fuir Ésaü? Non, il ne peut pas courir maintenant, il doit affronter Ésaü. En d'autres termes, il ne peut pas avoir le contrôle et dire que je vais juste déraper, que je vais le fuir, au moins je peux lui échapper parce que je suis plus rapide que lui. Maintenant, avec sa hanche dehors, il doit faire face à Ésaü face à face et il ne peut pas s'en sortir. Maintenant, au chapitre 32, verset 32, il est dit ceci, certaines personnes pensent que ce verset a été ajouté plus tard par des éditeurs ultérieurs, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon attaché à l'orbite de la hanche parce que l'orbite de la hanche de Jacob a été touchée à proximité. Le tendon. Ainsi, le texte dit, à ce jour, il ne mange toujours pas ce tendon qui se trouve près de la hanche à cause de la hanche de Jacob, à ce jour. Cette déclaration a-t-elle été ajoutée plus tard? Le récit vous parle de Jacob? Nous ne mangeons pas cela, à ce jour, semble-t-il être ajouté plus tard. Moïse est-il bien plus tard que Jacob? Oui, au moins 400 ans. Est-il possible que Moïse ait écrit, nous ne mangeons toujours pas le tendon, et c'était 400 ans plus tard? Cette déclaration de Genèse 32 aurait-elle pu être écrite par Moïse? Bien sûr, cela aurait pu. Moïse est 400 ans plus tard et il explique pourquoi il ne mange pas le tendon qui se trouve près de l'orbite de la hanche. Il n'est donc pas nécessaire de l'ajouter plus tard, bien après l'époque de Moïse. Moïse aurait pu l'écrire. La rencontre de El Jacob et le mensonge à Ésaü 57, 41-63, 31. Venons-en maintenant à la rencontre avec Ésaü. Les membres de la famille se réunissent après des années et des années et ils se rencontrent enfin. Ésaü tombe sur son frère et il pleure et se serre dans ses bras, enfin après tout ce temps. Avez-vous déjà été éloigné de vos frères pendant une longue période? Vous revenez là-bas et c'est cette belle chose qu'il n'y a personne comme un frère ou une sœur avec qui vous avez grandi. Alors ils se retrouvent des années plus tard et c'est vraiment un moment magnifique. Maintenant, Jacob ment-il encore une fois à son frère Ésaü? La réponse est qu'après tout ce temps, Jacob va encore mentir. Ils se réunissent au Wadi Jabbok. et Ésaü arrive avec ses 400 gars. Il dit à Jacob, « Jacob, je ne veux pas de tes cadeaux, reprends tes cadeaux, je suis riche. Pourquoi ne viens-tu pas voir chez moi ? J'habite au fond de la mer morte, dans toutes ces roches rouges, ces grès nubiens, Petra c'est beau là-bas. Pourquoi ne viens-tu pas me voir ?» Jacob dit, « Oh, oui, je viendrai te voir. » Alors Ésaü dit, « Eh bien, mes hommes protégeront pour vous vos brebis et vos chèvres et nous descendrons ensemble. » Mais Jacob dit, « Non, non, mes brebis et mes chèvres doivent aller lentement. Alors Ésaü, rentre chez toi et je viendrai te rendre visite. Rentre simplement chez toi. Si vous ne connaissez rien à la géographie, vous ne saurez pas qu'il a menti. Où est Jacob ? Jacob est là-haut. Ésaü rentre chez lui. La prochaine chose que vous lisez dans le texte, dans le chapitre suivant du chapitre 34, où est Jacob ? Jacob est ici à Sichin et c'est là que sa fille est violée. Jacob a-t-il menti à Ésaü en lui disant qu'il allait le rencontrer ici, puis il part dans la direction opposée. Est-ce que ce type ment toujours aux gens? Cela vous rend dingue après tout ce temps où il ment encore à son frère. D'ailleurs, vous le savez grâce à la géographie. Maintenant, c'est ici que Ésaü s'arrête et laissez-moi passer en revue tout cela. Ésaü devient le père des Édomites. Les Édomites sont ses descendants. Ainsi, chaque fois que vous voyez Édom ou Édomite dans les Écritures, ce sont les descendants d'Ésaü. À propos, je devrais dire que chaque fois que vous voyez des Édomites dans les Écritures, les Édomites feront toujours à peu près la même chose. Que font les Édomites? Ils tuent des Juifs. Quand vous les voyez dans les Écritures et que vous voyez des Édomites, rappelez-vous, Cyril de Brent, chaque fois que vous voyez un Édomite, il va tuer un Juif. Je suis sérieux, j'exagère évidemment, mais la plupart du temps, les Édomites tuent des Juifs. Le livre entier d'Abdia peut être résumé, il n'y a qu'un seul chapitre d'Abdia, mais tout le livre parle des Édomites et de la manière dont les Édomites ont tué les Juifs. Des malédictions s'abattent sur eux pour avoir tué des personnes dans une position impuissante. Ainsi, le livre d'Abdia le prophète est largement orienté contre les Édomites. L'Édomite le plus célèbre que vous connaissez s'appelle Hérode. Hérode était un Iduméen. Entendez-vous le, D, et le, M, c'est le même, D, et, M, Idum. Hérode était un Iduméen. Cela signifiait que le roi Hérode, le roi des Juifs, était un Édomite. Maintenant, comment se fait-il que vous soyez un Édomite et que vous soyez le roi des Juifs? Eh bien, si vous ne pouvez pas être juif, quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire? Alors, quand Hérode va épouser quelqu'un, quelle devrait être cette personne? Une princesse juive. Avez-vous déjà entendu parler des Maccabées? Hérode choisit l'une des princesses Maccabées. Son nom était Marianne et elle était une princesse de la lignée des Maccabées. Les Juifs vénèrent-ils les Maccabées? Les Maccabées leur ont offert la fête de Hanouka. Les Juifs vénèrent les Maccabées parce qu'ils étaient des héros. Il épouse une des filles des Maccabées. Maintenant, quel est le problème avec Hérode? Hérode tue-t-il des gens? Il tue sa propre femme, Marianne. C'est une princesse juive. Ce type est-il vraiment stupide? Est-ce que quelqu'un se souvient d'Antoine et de Cléopâtre? Vous connaissez aussi Marc-Antoine car il chante toujours. Cléopâtre détestait Hérode. Hérode a tué sa femme et Hérode a aussi tué ses fils. Hérode a construit cet endroit dans Jéricho du Nouveau Testament, et j'y ai eu mon fils et il est couvert de barbelés parce qu'ils ne veulent pas que vous y pénétriez. Mais Hérode emmena ses propres fils dans ses piscines qu'il avait aménagées et il demanda à certains de ses hommes de noyer l'un de ses propres fils. Est-ce que ce type est un boucher? Alors quand j'y suis allé, nous avons grimpé à travers les barbelés et j'ai dû prendre des photos. Alors j'ai mis mon fils, et il ne connaît aucune histoire, c'est un connaisseur d'informatique, alors je l'ai mis dans la piscine et j'ai pris une photo. J'allais mettre ma main sur sa tête comme si je le poussais ou quelque chose comme ça, mais j'ai eu une photo jusqu'à ce qu'il vienne et nous casse. Nous n'étions pas censés être là-dedans. On s'est fait déchirer avec le fil barbelé. Vous devez faire attention au fil de fer barbelé qui vous accroche. Mais si vous devez venir d'Amérique jusqu'à un endroit comme celui-là, allez-vous vous laisser arrêter par un petit fil barbelé? Non, j'espère que tu as un peu plus de courage que ça. Mais alors tu pourrais aussi courir vite, personne ne touche ta hanche. Quelqu'un dit que vous n'avez pas vraiment fait ça, n'est-ce pas?
Oui, je l'ai fait.
Il ne savait pas. C'est la mer salée ici. Vous l'appelez la mer morte, à 1270 pieds sous le niveau de la mer. Voici le Jourdain et la mer de Galilée. C'est le pays de la Jordanie et de la mer Méditerranée. Et Esaü est ici à Idum, au sud-est de la mer morte. Il vient ici sur la route des rois. Il se rencontre ici, c'est là que Jacob lutte avec l'ange à Peniel près du Jabbok Wadi. Jacob dit, je vais te suivre jusqu'à Idum, Esaü, et la prochaine chose que nous entendons, Jacob est ici à Sichin, et sa fille y est violée. Monsieur Lot, ses filles et Moab et Emmon 63, 32-68, 51. Maintenant, il y a quelques autres choses que j'ai sautées plus tôt. Savez-vous qui est Moab? Moab est une histoire que j'ai sautée. L'histoire se reproduit avec Sodome et Gomorre. Lot fut épargné du sort de Sodome et Gomorre. Qu'est-il arrivé à la femme de Lot? La femme de Lot se retourna et elle se transforma en statue de sel. Alors maintenant, Lot n'a plus de femme, il a deux filles. Les filles ont-elles des enfants? Non. Alors ce qui se passe, c'est que dans la grotte, ils enivrent leur père et ils ont des relations sexuelles avec leur père et ils produisent alors, savez-vous ce que signifie, Abba? Abba, signifie père. Moabé, signifie, du père. Les Moabites viennent, de mon père. Ce sont les descendants de Lot et de sa fille. Les Moabites est-ce un titre vraiment sympa, de la part de mon père? Ce n'est pas du tout un titre sympa. À propos, vous connaissez quelqu'un qui est célèbre à Moab parce qu'il y a un livre qui porte son nom, Ruth, la Moabite. Alors, les Moabites seront-ils dans la lignée de David? Ruth, l'arrière-grand-mère de David, va venir de Moab. Alors Jésus-Christ, les Moabites seront dans sa lignée. Émon était l'autre. L'autre fille a eu des relations sexuelles avec son père après l'avoir saoulé en produisant également de l'amon. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'Amon Jordan? Jusqu'à ce jour, Émon est toujours là. L'un des descendants de Lot était donc en Jordanie, à Émon, et l'autre était ici, avec Moab. Quand j'enseignais, j'ai enseigné pendant une décennie dans une prison à sécurité maximale de l'Indiana, et il y avait dans cette prison un type nommé Probo. Probo était l'un des gars les plus intelligents à qui j'ai jamais enseigné dans ma vie. C'était un Indien, un grand type, personne ne s'est jamais moqué de Probo en prison. Probo était dans la guerre du Vietnam. Il a été formé comme agent spécial. Il y avait une DMZ, une zone démilitarisée, ils ont largué Probo de l'autre côté de la zone démilitarisée sans armes, seulement un couteau et ses mains. Il a été formé pour tuer des gens. Pourquoi ne lui ont-ils pas donné d'armes? Parce que si vous actionniez une arme, il saurait que vous êtes là, donc tout devait être secret. Il avait un couteau et ses mains et il a tué des gens de l'autre côté de la DMZ. Quand il est revenu en Amérique, qu'ont-ils fait? On lui a remis toutes sortes de médailles et c'était un grand héros. Un soir, il était dans un bar et deux types lui ont sauté dessus. Est-ce qu'il n'est pas le bon gars pour sauter dans un bar? Deux gars lui ont sauté dessus, qu'a-t-il fait, instinctivement? Il a fait son truc et devinez quoi? Il y a deux morts à côté de lui. Qu'est-il arrivé à Probo? Il est emprisonné pendant 35 ans. Quand Probo traverse la prison, est-ce que quelqu'un a joué avec ce type? Non. Tout le monde savait qui il était, ce qu'il faisait et ce qu'il pouvait faire. C'est Monsieur Probo. Quoi qu'il en soit, ce type est plutôt intimidant, c'est un vieux type motard. Il était dans ma classe sur l'Ancien Testament et j'enseignais l'Ancien Testament le soir, j'enseignais le jour à l'université et j'y allais le soir. Je regarde Probo et il n'a pas pris une seule note pendant le cours. Il n'était pas croyant et il posait donc toutes ces questions en essayant de détruire la Bible. Nous nous sommes tous investis et tout était cool. J'ai regardé Probo et il n'a pas pris de notes pendant le cours et j'ai dit, pour ce premier test, je vais clouer ce mec. Il va payer pour ne pas avoir pris note alors qu'il n'y prêtait même pas attention.
Il a passé le test, il a obtenu un 98 au premier test. Alors je suis juste venu vers lui et je lui ai dit « Probo, quel est le problème ? Vous n'avez pas pris note, comment avez-vous obtenu un 98 à ce test ?» Il s'avère qu'il était formé, qu'il avait l'oreille photographique. Tout ce que je disais, il pouvait le citer, il pouvait le citer alors que je ne me souvenais même pas de ce que j'avais dit. Il pourrait le citer mot pour mot. Eh bien, nous sommes arrivés au passage sur les filles qui enivrent leur père et qui ont des relations sexuelles avec leur père. Probo lève la main là-bas, le vieux Probo arrogant, et il dit, « Professeur, quand tu es ivre comme ça, tu ne peux pas faire l'amour comme ça. Cela montre simplement une erreur dans la Bible. Je veux dire, évidemment, cela ne peut pas être vrai, cela ne se produit pas comme ça. Je reste là à penser, je suis désolé mais la vérité est que je n'ai jamais été ivre. Je pensais, putain de vache, Ril de Brent, il t'a eu sur ce coup-là, je veux dire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire quand tu es ivre? Je ne sais pas. Et alors, comment contestez-vous l'expérience de ce type? Donc je pense à toutes ces raisons dans ma tête va et vient, généralement j'ai une réponse intelligente et rapide. Maintenant, je suis totalement perplexe. C'est ce type qui me dit par expérience, que dois-je faire? Heureusement pour moi, providentiellement pour moi, le vieux Robert était devant. C'était un homme noir âgé, assis devant. Il se retourne, regarde Probo droit dans les yeux et dit, « Probo, ce n'est pas bien, dit-il, j'ai fait ça. » J'ai dit très bien, très bien. Quelque temps avant la fin du cours, si j'oublie et si quelqu'un me fait revenir à Probo, cette histoire se termine bien. Moeb et Amon sont donc deux groupes tribaux importants que nous verrons plus tard à partir de l'eau. N. Jacob retourne à Bethel 68, 51-71, 09. Maintenant que Jacob retourne à Bethel, que se passe-t-il ici? Au chapitre 35, quand il revient à Bethel, c'est 20 ans plus tard. Tout d'abord, il se débarrasse de ses dieux étrangers. Qu'est-ce que cela vous apprend sur Jacob? Jacob se débarrasse de ses dieux étrangers. Jacob était-il un idolâtre? A-t-il adoré d'autres dieux? Je suppose donc que Jacob le fait ainsi, eh bien, Jéhovah est en quelque sorte mon Dieu, vous connaissez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez que Jéhovah est mon Dieu, mais j'aime aussi ces autres dieux parce qu'il n'y a jamais trop de dieux. Vous savez, vous aurez peut-être juste besoin d'une protection supplémentaire. Je pense donc que ce que vous avez ici, c'est Jéhovah plus ses autres dieux, énothéisme. Jacob dit qu'il les utilise pour se protéger. C'est comme un avantage supplémentaire. Jacob se débarrasse de ses dieux étrangers. Il est maintenant de retour à Bethel et doit affronter le vrai Dieu. Ainsi, au chapitre 35, il se débarrasse de ses dieux païens. Dieu vient alors et réitère que son nom sera changé de Jacob en Israël. Il y a donc une réitération de ce changement de nom en « celui qui lutte avec Dieu ». Son nom, Israël, y est réitéré. Alors, que attendriez-vous qu'on réitère une fois de plus? Alors qu'il revient vers Dieu à Bethel, Dieu lui réitère également l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance est la promesse de la terre, la semence doit être multipliée et elle sera une bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, l'alliance est réitérée à Jacob maintenant alors qu'il revient à Bethel. Bethel sera plus tard dans l'histoire d'Israël un lieu d'idolâtrie. Ce sera un endroit où Israël quittera Dieu et il est intéressant de voir comment le nom de Bethel est pris et entre dans l'idolâtrie. Nous le verrons plus tard lorsque Jérusalem occupera le devant de la scène. Rachel meurt, nous en avons parlé. Rachel meurt après avoir quitté Bethel. Rachel meurt à l'extérieur de Bethléem alors qu'elle descendait voir son père Isaac. Rachel meurt avec Benjamin. Nous avons dit que cela se retrouvait au moment de la naissance de Jésus, au moment du massacre des enfants, ainsi que dans Jérémie à propos de l'exil babylonien. Ainsi, la mort de Rachel trouve un écho chez Jérémie en exil, puis jusqu'à Jésus dans le meurtre des enfants. Bethel va donc devenir un lieu important. Bethel va être un lieu religieux pour Israël. C'est l'endroit où il rencontre Dieu à Bethel, la maison de Dieu. Au Jacob et les 12 tribus d'Israël 71, 10-73, 45. Maintenant, tout d'abord, je ne veux pas que vous appreniez les 12 tribus d'Israël. Je veux que vous en connaissiez 4. Vous verrez tout de suite lesquels je veux que vous sachiez. Ils seront en jaune. Tout d'abord, laissez-moi les mettre tous ici. Lié à la majeure partie des enfants. Ruben est le premier-né, mais il y en a 2 que je veux que tu saches. Le premier est Lévi. Pourquoi Lévi est-il important? Lévi devient prêtre. Moïse et Aaron sont issus de la tribu de Lévi et les descendants d'Aaron seront les prêtres. Ainsi les prêtres et les lévites seront de la tribu de Lévi. Ils seront le genre de la sainte tribu chargée de porter le tabernacle et de servir devant le Seigneur. Il y aura aussi des villes lévitiques plus tard. Lévi est une tribu très importante. L'autre tribu importante de Léa est Joudé. Maintenant, pourquoi Joudé est-il important? Qui sera de Joudé? Jésus sera de là, mais devant Jésus, qui? David. Les rois d'Israël, David, Salomon, Roboam, Ézéchia, Josia, tous les rois du royaume du sud viendront de Joudé. Ainsi Joudé pourvoira au roi comme Lévi fournira aux prêtres. Maintenant avec Rachel, vous devez connaître ses 2 enfants. Son premier-né était Joseph. Joseph va être un personnage très important dans Genesis. Son autre fils est Benjamin. Pourquoi Benjamin est-il important? Le premier roi d'Israël sera de la tribu de Benjamin. Son nom sera Saul, mais quand je dis Saul, qui connaissez-vous dans le Nouveau Testament nommé Saul? Paul. Devinez de quelle tribu est originaire Paul. Il est aussi de la tribu de Benjamin. L'apôtre Paul a-t-il probablement été nommé Saül en hommage au roi Saül de la tribu de Benjamin? Oui. Voilà donc les 4 que je veux que vous connaissiez, Lévi, Joudé, Joseph et Benjamin. Plus tard, la tribu de Joseph se divisera, Joseph sera la tribu du nord et Joudé sera la tribu du sud. Le pays va se diviser au nord et au sud. Joseph sera au nord, Joudé sera au sud. Joseph se divisera en Éphraïm et Manassé, ses 2 enfants, qui obtiendront un héritage avec les autres tribus. Éphraïm sera la tribu dominante dans le royaume du nord et Joudé sera plus tard le royaume du sud. Ce sont donc les 12 tribus d'Israël et ces 4 sont très importantes. Péviol de Daïna 73, 46-77, 14. Vous vous souviendrez qu'il y a une fille là-haut, elle s'appelle Daïna. Pourquoi les chrétiens sautent-ils les chapitres entre 34 et 38? Je veux juste parcourir les histoires et voir si vous avez déjà entendu des sermons prêchés à ce sujet. Pourquoi les chrétiens les ignorent-ils? Le chapitre 34, tout d'abord, est le viol de Daïna. Or, Dina, la fille de Léa, née de Jacob, sortit pour rendre visite aux femmes du pays. Et quand Sichin, fils de Réhémer, je l'appelle l'Oman parce que c'est pour cela que son nom signifie, Oman, sortit et rencontra Sichin, fils de l'Oman, le chef du pays la vit, il l'a pris et il l'a violé, c'est une autre façon de dire quoi? Il l'a violé. Alors Daïna se fait violer, pourquoi ce type Sichin est-il vraiment stupide? Est-ce que tu plaisantes avec une fille qui a 12 frères? Non, c'est vraiment stupide. Mais après qu'il l'ait violée, que se passe-t-il? Quand Jacob apprit que sa fille Daïna avait été violée, ses fils étaient dans les champs. Alors Jacob, furieux et furieux, prit son épée, sortit et le poursuivit. Est-ce ce que Jacob a fait? Jacob est-il un homme ou est-il un quoi? Qu'aurait-il dû faire en tant que père? Aurait-il dû être là-bas en premier? Que fait Jacob? Il est écrit, Jacob resta silencieux jusqu'à ce qu'il les frères rentrent à la maison. Est-ce que ça me dérange à propos de Jacob? Ce type Jacob, j'ai de gros problèmes avec lui. Maintenant, quand les frères rentreront à la maison, y aura-t-il un problème maintenant? Les 12 frères arrivés, il est dit, les frères étaient remplis de chagrin pour leur sueur et de fureur. Chagrin et fureur, est-ce une mauvaise combinaison? Alors les 12 frères sortent, que se passe-t-il maintenant? Jacob essaie de maintenir un peu la paix, et laisse-moi juste raconter l'histoire. Alors il va voir Sichin et Rémer et ils disent, mon fils Sichin est tombé amoureux de Daïna, il veut l'épouser. Et Jacob dit, d'accord. Mais vous voyez, nous sommes juifs et nous sommes circoncis et vous, les gars, n'êtes pas circoncis. Vous n'êtes pas circoncis. Vous devez donc revenir en arrière et dire à votre peuple qu'ils doivent tous être circoncis. Au fait, Rémer et Sichin reviennent ils et convainquent ils toute la ville de se faire circoncire. Est-ce une grosse affaire?
Oui.
Ils disent, nous pouvons nous marier avec ces gars-là. Nous pouvons commercer avec eux et ils peuvent commercer avec nous. Nous épouserons leurs enfants et ils épouseront nos enfants. Nous nous marierons avec eux. Alors ils sont d'accord, soyons circoncis. Alors ils convainquent toute la ville de se faire circoncire. Vous vous souvenez du reste de l'histoire. Au fait, faut-il les 12 frères?
Non.
Juste 2 frères entrent, Lévi et Siméon, ces 2 frères entrent et éliminent toute la ville. Juste 2 frères et il est dit que le 3e jour, alors qu'il était encore, je pense que le texte ici dit, souffrait. Évidemment, ils sont impuissants et je ne devrais pas rire. Ce n'est pas bon, en d'autres termes, c'est quelque chose qui s'est produit et qui souille la circoncision. C'est une mauvaise chose. Quoi qu'il en soit, c'est l'histoire de Daïne. Maintenant, pourquoi cette histoire est-elle dans la Bible? Quelqu'un a-t-il déjà entendu un sermon à ce sujet? D'accord, nous en avons un ici, c'est intéressant. Qjoudé et Tamar, Gn 38, 77, 15-81, 50. Passons maintenant à l'histoire de Judé et Tamar. C'est au chapitre 38. Permettez-moi de raconter cette histoire rapidement ici. Tout d'abord, le contexte de l'histoire, Judé avait épousé une cananéenne, est-ce bien ou mal?
C'est mauvais.
Son fils Hur avait pris cette femme Tamar, qui était aussi cananéenne, et l'avait épousée. Qu'est-il arrivé à Hur?
Hur, le fils de Judé, épouse Tamar et son fils meurt.
Maintenant, que doit faire le 2e fils lorsque le fils aîné est décédé?
Il doit épouser la femme et avoir un enfant pour son frère.
En d'autres termes, ce ne sont pas ses enfants, il doit avoir des enfants pour son frère, en l'honneur de son frère. Ils appellent cela le mariage du Lévirat et cela faisait partie de la culture de l'époque.
Que arrive-t-il au 2e fils, Onan?
Il l'épouse mais en train d'avoir des relations sexuelles avec elle, il renverse volontairement la graine sur le sol. Dieu se fait tellement pirater Onan qu'il le fait sortir. Alors maintenant Hur a épousé Tamar, il est mort, le 2e fils a épousé Tamar, et maintenant il est mort, vous avez votre 3e fils, allez-vous donner votre 3e fils à cette femme?
Tout ce que la femme touche meurt.
Maintenant, c'est sérieux. Alors Judé dit, mon fils n'est pas encore tout à fait prêt.
Tamar voit ce qui se passe.
Alors Tamar revêt la robe d'une prostituée.
Judé, et vous devez connaître le texte, la femme de Judé était morte, c'est significatif.
La femme de Judé est morte.
Alors Judé, le père, n'a plus de femme maintenant, il est en voyage et il arrive et voici Tamar paraît comme une prostituée, couverte pour qu'il ne sache pas qui c'est.
Elle dit, eh, qu'est-ce que tu veux, mon grand?
Combien ça coûte?
Et il dit, prenez-vous Visa ou Mastercard?
Et elle dit, eh bien, j'ai l'un ou l'autre.
Je peux dire que tu n'as pas de monnaie, donc ce que je veux de toi, c'est ta chevalière.
Au fait, pourquoi cette chevalière est-elle importante?
C'est la chevalière de Judé.
C'est ce qu'il met dans la boue qui indique que c'est lui.
Ou comme dirait ma femme, c'est lui.
Alors je veux ton bâton et ta bague et ensuite tu pourras aller chercher la chèvre et me la rapporter.
Alors il entre en elle et elle conçoit.
Quand il va envoyer la chèvre en paiement, elle disparaît et il dit, eh bien, elle est partie.
Un peu plus tard, on découvre que Tamar est enceinte.
Ma belle-fille est enceinte, faites-la sortir, elle devrait être brûlée pour avoir ainsi profané notre famille.
Puis Tamar sort et dit, eh, Judé, tu te souviens de ça?
Et c'est, oh, eh bien, et Judé est attrapé.
Vous dites, cette histoire est dans la Bible.
Je veux dire, c'est ce qui s'est passé.
C'est dans la Bible?
La Bible approuve-t-elle cette histoire ou raconte-t-elle simplement ce qui s'est passé?
Cela nous raconte ce qui s'est passé, descriptif et non prescriptif. Au fait, Juda est-il une grande tribu d'Israël?
Juda est David.
En effet, Tamar est dans la généalogie de Jésus-Christ.
Dans Matthieu chapitre 1, devinez qui apparaît.
Tamar.
Dans la généalogie de Jésus-Christ, pouvez-vous croire qu'elle trouve son origine dans cette histoire?
Maintenant, vous dites, d'accord, Hildebrandt, que se passe-t-il?
Pourquoi ces deux histoires se trouvent-elles dans la Bible?
J'ai une suggestion et ce que je vais vous suggérer, c'est que ce que vous avez ici, c'est l'élimination des frères aînés.
Qui sont les frères aînés?
Dans la première histoire, qui est éliminée?
Lévi et Siméon, vous dites que Rouben est l'aîné, oui eh bien, Rouben a couché avec la concubine de son père, donc il est également hors de propos.
Donc Rouben est parti, Lévi et Siméon sont partis, voici Juda aussi.
Je pense que cela élimine les frères aînés.
Cela montre la corruption des frères aînés, car sur qui va se concentrer l'attention?
À la fin du livre de la Genèse, l'attention va-t-elle se déplacer des frères aînés vers qui?
Joseph.
Joseph va être un joyau.
Joseph et Daniel sont vos deux grands gagnants dans l'Ancien Testament.
Je pense donc que le texte utilise cela comme une technique littéraire pour vous éloigner des frères aînés et vous concentrer sur Joseph et je pense que c'est ce qui se passe ici.
R. Le récit de Joseph 81-54-01.
Maintenant, je veux aborder le récit de Joseph, cela va être rapide.
Je veux comparer Jacob et Joseph.
Jacob et Joseph dans le livre de la Genèse sont comparés.
Les deux personnages étaient très différents mais ont pourtant des vies similaires.
Par exemple, dans l'histoire de Jacob comme dans celle de Joseph, vous avez la suprématie du frère cadet.
Jacob est le frère cadet, Ésaü est le frère aîné.
Jacob est suprême.
Joseph est le frère cadet, les frères aînés sont tout corrompus, Joseph est le vainqueur.
Il y a donc la suprématie du frère cadet.
Tant dans l'histoire de Jacob que dans celle de Joseph, il y a des conflits et des tromperies au sein de la famille.
À propos, vous pouvez voir la tromperie dans le nom, Jacob.
Vous pouvez voir des conflits dans le nom, Israël.
Vous souvenez-vous quand j'ai commencé, Jacob était un conflit et une tromperie.
Ce sont les deux noms de Jacob, Jacob et Israël.
Fondamentalement, le favoritisme parental conduit à une rivalité fraternelle.
Jacob a-t-il préféré Joseph aux autres enfants?
Vous souvenez-vous du pelage multicolore?
Donc Jacob l'a favorisé et chaque fois que vous avez le favoritisme parental, cela conduit les frères et sœurs à s'affronter.
Ainsi, le favoritisme parental conduit à des rivalités fraternelles et à des conflits au sein des familles.
Dans les deux cas, le plus jeune, le plus spécial, a été séparé de sa famille pendant 20 ans.
Jacob est séparé de sa famille à Haran.
Joseph est séparé de sa famille en Égypte.
Ensuite, Jacob et Joseph prospèrent tous deux dans un pays étranger.
Joseph va monter donc il est juste sous Pharaon.
Jacob tire toutes ses richesses de Laban.
Alors ils prospèrent tous les deux dans un pays étranger.
Enfin ici, tous deux, à la fin de leur vie, retrouvent leurs anciens frères.
Jacob retrouve Ésaü bien que cela pose quelques problèmes, et Joseph retrouve ses frères.
À la fin, vous souvenez-vous que Joseph et les frères se réunissent.
Ainsi, les histoires de Jacob et Joseph sont quelque peu parallèles dans la manière dont l'histoire se forme, bien qu'il s'agisse de deux personnages totalement différents.
S. Joseph et la sagesse 84-02-85-53.
Maintenant, un autre changement majeur, je veux comparer le récit de Joseph dans la Genèse pour montrer un lien avec Joseph et la littérature de sagesse en faisant quelques comparaisons.
Pour ce faire, je vais vous raconter une histoire.
Il était une fois, vous savez que vous entendez une histoire lorsque vous entendez cela.
Il était une fois une personne de très haut statut qui avait un problème et il parcourait son royaume à la recherche de ce royaume.
Je veux que vous pensiez à l'histoire, il parcourt tout son royaume en essayant de trouver quelqu'un pour résoudre le problème et finalement il ou elle essaie, et ça colle.
La personne de statut inférieur résout le problème du roi et elle est placée à la tête de tout le royaume et ils vivent tous heureux pour toujours.
Quelle histoire je raconte?
Certains d'entre vous disent, Cendrillon.
C'est l'histoire de Cendrillon. Je pense que certains d'entre vous ont dit, Pretty Woman. Non, non, en fait je suis très sérieux, c'est l'histoire de Pretty Woman, construite sur l'histoire de Cendrillon Aladdin aussi. Comprenez-vous qu'il y a une forme à cette histoire qui est très similaire? Est-ce que c'est aussi ce que vous avez avec l'histoire de Joseph? Le roi avait ce problème, il a ses rêves et personne ne peut le résoudre. Il descend finalement à la prison et trouve en prison cette personne qui peut interpréter ses rêves. Il interprète alors correctement les rêves du pharaon et que arrive il à la personne de statut inférieur. Il a été élevé au rang de personne de haut statut et ils vivent tous heureux pour toujours. Il fait le truc de la famine et il passe 7 ans sans nourriture et il a de la nourriture pour eux et ils sont prêts à partir. C'est le même genre de structure que l'histoire de Cendrillon que vous avez dans l'histoire de Joseph. C'est pourquoi l'histoire de Joseph est si belle, elle suit le même genre de modèle narratif. T. Joseph, épouse et sagesse de Potiphar 85, 54-89, 19. Maintenant, Joseph résiste et il a la femme sauvage. Rappelez-vous que la femme de Potiphar le poursuit et, en passant, si cela s'était produit ailleurs dans la Bible, le résultat aurait été très différent. Mais Joseph est un homme irréprochable. Il ne profite pas de Potiphar. Même dans sa droiture, finit-il en prison. Oui, donc ce type est bon. Dans les proverbes, le père proverbial avertit-il son fils de ne pas s'amuser ainsi avec des femmes sauvages. Oui. Les chapitres 5 et 7 des Proverbes sont des avertissements majeurs concernant les femmes sauvages. Joseph en fait un modèle. Les sages sont-ils doués pour interpréter les rêves? Daniel est un sage en Mésopotamie et Daniel interprète également les rêves pour Nabuchodonosor. Joseph interprète les rêves pour Pharaon. Il est considéré comme un homme sage et un homme sage sait interpréter les rêves donc les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Il épargne pendant les 7 années d'abondance, puis pendant les 7 années de famine. Il était en prison avec l'échanson et le boulanger. En voici un autre. Dans la littérature égyptienne sur la sagesse, le sage est appelé l'homme silencieux. Au fait, en Amérique, le sage est-il l'homme silencieux ou le sage est-il celui qui dit toujours ce qu'il dit? Dans la littérature égyptienne ancienne, et je parle depuis 2000 ans, le sage était considéré comme l'homme silencieux. Joseph a-t-il caché ses émotions à ses frères? Lorsqu'il a rencontré ses frères pour la première fois, a-t-il caché ses sentiments et est-il resté silencieux? Il joue ce rôle de ce sage sage. Il joue ici le rôle de l'homme silencieux. Quand je parle de littérature de sagesse, la crainte de Dieu est le début de la sagesse et ce motif de crainte de Dieu se produit réellement chez Joseph. Et enfin, et c'est mon préféré. Jacob le père meurt, et maintenant Joseph se retrouve avec ses 11 frères. Ses 11 frères sont morts de peur. De quoi ont-ils peur? Joseph est en position de pouvoir, eux sont en position de faiblesse. Les frères viennent vers Joseph et lui disent, « Joseph, ne nous tue pas. Nous ne voulions vraiment pas te faire de mal il y a toutes ces années. » Joseph dit quoi? Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. C'est un renversement. Est-ce que Dieu fait les renversements? Il prend ce qui est mal et le transforme en bien. Joseph dit, tu avais l'intention de me faire du mal mais Dieu le voulait pour le bien, et tout a changé. C'est l'œuvre rédemptrice de Dieu, il prend ce qui est mauvais et le transforme en quelque chose de merveilleux. Il le fait avec Joseph et il le fait aussi avec nos vies. Nous en avons fini avec Genesis. Nous commencerons par Exodus la prochaine fois. À jeudi. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt qui enseigne l'histoire, la littérature et la théologie de l'Ancien Testament, la conférence 10 sur la conclusion des histoires de Jacob ainsi que l'introduction et la conclusion du récit de Joseph concluant le livre de la Genèse. Transcrit par Kristen Sawyer. Brut édité par Ted Hildebrandt II.